Europe 1.
De 6h à 9h le week-end, vous écoutez Bernard Poirette sur Europe 1.
Le tour de table culturel de ce samedi matin. Qui est au micro? Eh bien écoutez, il y a Diane Chenouda, Angèle Châtelier, Nicolas Carreau et moi-même. Que du beau monde, dirais-je.
Bonjour Bernard,
Diane
Chenouda,
bonjour. Vous nous emmenez à Gand. Gand en Belgique, oui. Ville absolument sublime. Doublement parce qu'actuellement, on peut aller à la découverte du très grand maître primitif flamand du 15e, Jan van Eyck, avec une exposition exceptionnelle au musée des Beaux-Arts de Gand.
Oui, absolument. C'est le Léonard de Vinci du Nord.
Hein. Ah, oui.
Il faut faire le voyage à Gand. C'est une merveille. Jamais autant d'œuvres de Van Eyck du monde entier n'avaient été réunies sur la vingtaine qu'il a peint.
C'est très peu, hein, finalement.
Absolument, mais elles sont sublimes. Il y a par exemple cette Vierge à la fontaine très émouvante. Tout petit tableau, mais fascinant, avec ses jeux d'ombre et de lumière dans les drapés. Et on entend presque l'eau qui coule de la fontaine. Et
alors, ce qui est fabuleux aussi, Diane Chenouda, pour la première fois, c'est qu'il y a une partie du chef-d'œuvre absolu de Van Eyck.
Absolument, c'est une partie du retable de l'agneau mystique, un peu sa chapelle Sixtine, hein, qu'il a peint en 1432, qui sort pour la première fois de la cathédrale de Gand, comme ses portraits d'Adam et Ève. C'est d'une modernité. Johan de Smet est l'un des commissaires.
C'est vraiment un moment extraordinaire dans l'histoire de l'art. C'est la première nue féminin à être montrée d'une manière si réaliste. Van Eyck montre Ève comme une être humain, comme une femme de tous les jours.
Après, il faut bien sûr aller à la cathédrale de Gand,
ah oui,
où a été restauré le célèbre panneau de l'agneau mystique. Une restauration spectaculaire qui a transformé cet agneau, symbole du Christ sacrifié, peint au milieu d'une prairie avec le flanc qui saigne. Il n'a plus la même tête qu'avant, figurez-vous, car les restaurateurs ont retrouvé la peinture originale de Van Eyck,
oui,
qui avait été en grande partie repeinte au XVIe siècle et au XXe. Avant, c'était un agneau avec une tête d'agneau. Et là, on a un agneau à tête presque humaine, très expressif, au regard intense, qui vous regarde droit dans les yeux.
Oui, c'est incroyable, hein, quand on voit ça. Son regard, c'est comme sa mystique.
C'est un regard qu'on n'oublie pas une fois qu'on l'a vu.
Impressionnant. Yeah.
Vraiment, je vous le confirme, c'est à voir à la cathédrale de Gand.
Donc, deux bonnes raisons,
oui,
d'aller à Gand.
Absolument.
Donc, à la cathédrale,
oui,
où il y a toujours des merveilles à voir. Et puis, cette exposition Van Eyck au Musée des Beaux-Arts, c'est jusqu'au 30 avril. Je rajoute une troisième raison d'aller à Gand, mis à part que c'est une ville magnifique.
Ouais.
C'est là, je pense, que j'ai mangé les meilleures frites de ma vie.
Ah, ouais,
en l'occurrence.
J'ai pas eu le temps,
dans
moi,
une friterie publique, hein, en l'occurrence,
compte,
hein, dans la
compte.
Rue. C'était extraordinaire. Et vous, Nicolas Carreau, vous êtes excité comme un poux malade ce matin parce que vous avez trouvé non pas un bon roman, mais un remarquable et formidable roman.
Ah, je suis très heureux parce que vous savez, Bernard, mon combat, c'est de contribuer au retour du roman français romanesque.
Oui.
Ça a l'air idiot à dire, mais on a un peu perdu en France notre veine de l'imaginaire, du romanesque, qui ne laisse pas de côté le style non plus, qui réconcilie les deux. Il y a Pierre Lemaitre,
bien sûr,
il y en a quelques autres, mais ça ne court pas les rayons des librairies.
Et donc, qui est le petit nouveau?
Il s'appelle Joseph Denise. Il publie son premier roman chez Julliard, ça s'appelle « Quand on parle du diable ». Alors c'est un pavé, hein, 530 pages, mais c'est le temps qu'il faut pour que se déploie cet imaginaire fait de monstres, de sortilèges, etc. Il renoue avec la tradition des feuilletons du 19e, à la Dumas, Eugène Sue, tout ça. Le premier chapitre s'appelle « Géo Grandin est mort ». Géo, c'est l'oncle d'Aimé Grandin. Il est mort d'une crise cardiaque et Aimé est venu le voir à la morgue. Il aimait beaucoup son oncle, un peintre et un faussaire. Lui, Aimé, il vit de petits trafics et il cherche partout son ami Maudit, un peintre aussi, Modigliani.
Ah, ça pas Maudit, M-A-U-D-I-T.
Voilà.
D'accord, Modigliani, ça nous parle, bien évidemment. Donc nous sommes au début 20e. Hein.
Exactement, en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, et justement, Aimé rencontre Edmond, qui revient du front avec une jambe en moins et raconte une histoire extraordinaire. Et comme il raconte ça accoudé à un zinc, les copains ont un peu de mal à le croire. Il raconte qu'un jour, sur le front, il attaque une mitrailleuse à la baïonnette, mais quand il arrive à la hauteur du tireur et qu'il lui plante sa fourchette dans le dos, comme il dit,
ouais,
eh ben, il se rend compte que le Bosch est déjà mort. C'était un mort-vivant. Hilarité générale. Passons. Dans l'atelier de son oncle, Aimé tombe sur un étrange dessin. Quand il le voit, il s'évanouit. Et quand il se réveille, il se rend compte que son corps se pétrifie. Vous connaissez le mythe de Méduse?
Bien sûr, ouais.
Avec ses cheveux en serpent, elle changeait ceux qui la regardaient en pierre. Et bien voilà, c'est un peu ce qui arrive à Aimé. Et pour rompre la malédiction, il doit retrouver le véritable portrait de Méduse. Parallèlement, il doit délivrer la femme de sa vie de la possession d'une entité maléfique. Moi, je vous donne ça un peu dans le désordre.
Donc, c'est un roman fantastique.
Exactement, avec des magiciens, des sorciers, des démons. Oui, mais c'est pas
c'est
un roman jeunesse.
C'est dur à maîtriser, ça.
C'est pas, mais exactement, c'est pas un roman fantasy. C'est un bon grand roman qui fait aussi réfléchir sur l'humanité, sur la barbarie, sur le mal. Au passage, on croise aussi toute une époque et ses protagonistes, Modigliani donc, mais aussi Méliès ou Mata Hari, entre autres. Franchement, c'est une superbe découverte. Premier roman, à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de Joseph Denise, D-E-N-I-Z-E.
Et donc, vous en avez très très bien parlé, Nicolas Carreau. Je vous rappelle le titre, « Quand on parle du diable ». Joseph Denise, ça vient de sortir chez Julliard. Moi, ça m'a donné bien envie de le lire. Et peut-être que Mademoiselle Châtelier va me donner envie d'écouter de la musique dans un petit instant, puisque c'est elle qui ouvre la deuxième partie du tour de table, juste après ceci.
Europe 1. Vous retrouvez Bernard Poiret jusqu'à 9h sur Europe 1.
Nous repartons dans le tour de table culturel avec vous, Angèle Châtelier. Donc, si j'ai bien compris, Angèle, parce que vous faites ma formation générale chaque semaine, il faut se préparer aujourd'hui à entrer dans la tête d'un prodige du son et des machines.
Alors oui, imaginez un homme, cheveux qui arrivent à peu près aux épaules, il a le regard malicieux mais parfois absent, il est souvent en jean basket, mais surtout, c'est un génie du son. Ça donne Kevin Parker, le leader du groupe australien Tame Impala, de retour avec un nouvel album, The Slow Rush.
Ça ne me dit strictement rien. Je pense qu'on n'écoute pas les mêmes radios, Angèle. Hein ?
Alors, sachez pourtant...
On n'écoute que Europe 1.
Oui, déjà.
Voilà.
Oui.
Sachez pourtant que leur dernier album, c'était Currents en 2015 et ça a été un carton planétaire. Ils ont influencé plus d'un groupe amateur de rock psychédélique. On entend un peu ça, mais il y a aussi un peu de pop. Et avec Tame Impala, on s'embourbe un peu dans des nappes de son tellement éparses que prises séparément, elles pourraient n'avoir aucun sens. Tame Impala, c'est un peu un labyrinthe, mais les résultats, vous allez l'entendre, en est très clair et très limpide.
Ça, c'est plus standard que le premier extrait,
me
semble-t-il.
Alors, la trame de ce nouvel album, c'est le temps. Celui qui file, celui qu'on regarde filer. La pochette, c'est une photo prise en Namibie, dans le village fantôme de Kolmanskop.
Ouais.
On y voit des portes.
J'y suis allé.
C'est vrai ?
Oui.
Ah, on y voit donc, a priori, des portes colorées, masquées par des mètres de sable. Et au magazine Tsugi, Kevin Parker disait « Ce que j'ai aimé avec tout ce sable empilé, c'est qu'en prenant la photo, on ne peut pas dire si c'est arrivé en 5 minutes ou en 50 ans. Et l'avantage du temps qui passe, c'est que les artistes se renouvellent tout en gardant leur substance. Et ce temps, avec ce quatrième album, Tame Impala le maîtrise totalement. »
Troisième extrait donc de Tame Impala et ce nouveau disque Slow Rush que je découvre intégralement par votre grâce, Angèle Châtelier. Moi, les derniers Australiens dont j'avais entendu parler, c'était Midnight Oil. Donc vous voyez, ça remonte quelques années quand même, hein, pour le moins.
C'est décidé, évidemment, eux aussi.
Voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes découvertes culturelles toute cette semaine. On se retrouve samedi prochain, sans faute. Merci.